a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C. aux États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon. Fred est à la mise en onde, assisté de Joselle. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Course à la Maison Blanche, la convention républicaine s'est déroulée cette semaine à Cleveland dans l'Ohio. La semaine prochaine, les démocrates prendront le relais à Philadelphie. Que pensez-vous de ces grands shows politiques à l'américaine? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous avons ici en studio Nicolas Pinault, notre envoyé spécial à Cleveland, qui est de retour à peine, j'allais dire. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, John.
Vraiment, je sais que vous n'avez pas eu le temps de vous reposer. Merci d'être là. Nous avons également Alassane Fall. Alassane Fall est consultant international et résident de Cleveland. Alassane, bonsoir.
Bonsoir, John.
Voilà, vous restez avec nous. René Lec est le directeur de publication de CNEPlus.com et puis maîtrise bien Washington et sa politique. René, bonsoir.
Bonsoir, John.
Voilà, vous nous accompagnerez également au cours de cette émission. Je vais commencer par Nicolas Pinault. Alors, Nicolas, si on décrivait un peu l'ambiance qui a régné au cours de cette convention des républicains, qu'est-ce qu'on peut retenir?
On peut retenir que ça s'est beaucoup mieux terminé que ça n'avait commencé. C'est vrai que la convention, hein, que ce soit la convention démocrate ou républicaine, c'est vraiment le rendez-vous, hein, tous les quatre ans du parti pour se rassembler autour d'un candidat. On sait que Donald Trump est un candidat, un outsider, il n'a jamais eu de mandat politique. Jusqu'à présent, il n'était pas membre du parti républicain. Et donc, cette convention était l'occasion pour lui d'avoir l'unité du parti derrière lui. Oui, mais voilà, cette convention a été à l'image de Donald Trump. Elle a été peu conventionnelle, elle a été grandiose, mais elle a été aussi avec des polémiques, et notamment, évidemment, deux discours, hein, qui ont un peu éclipsé certains débats d'idées. Le lundi soir, Melania Trump, avec la polémique que vous savez sur le plagiat ou non sur Michelle Obama, l'actuelle première dame des États-Unis. Et mercredi, alors que c'était Mike Pence, le colissier, celui qui deviendrait vice-président des États-Unis, qui s'exprimait à la tribune, eh bien, qu'est-ce qu'on a retenu des interventions de mercredi soir? On a retenu celle de Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui a été un des farouches adversaires, hein, de Donald Trump lors de ses primaires. Eh bien, il n'a pas dit clairement « je soutiens Donald Trump, j'appelle à voter Donald Trump ». Il a dit « chacun votera en sa conscience ». Il a été copieusement hué. Et donc, et alors, pour revenir au côté peut-être plus positif, hier, ça s'est très très bien passé. Donald Trump, c'était l'une de ses critiques, hein, de cette convention, beaucoup d'attaques contre Hillary Clinton, pas de programme, pas d'idée. Eh bien hier, il a vraiment labellisé ce qu'il allait faire lors des 100 premiers jours. Il a parlé immigration, il a parlé économie, il a parlé des accords commerciaux qu'il renégocierait. Il a évidemment parlé de sécurité, mais ça s'est beaucoup mieux terminé en tout cas que ça n'avait commencé. Mais il y a quand même un petit goût amer sur cette convention où il y a eu ces couacs qui peut-être relève des fractures peut-être beaucoup plus profondes au sein du Parti républicain.
Voilà, vous n'avez peut-être pas mentionné aussi, Nicolas, il y a eu l'intervention de Ivanka Trump, dont on dit qu'elle pourrait être d'un appui en ce sens qu'elle pourrait convaincre les femmes à voter pour Donald Trump.
Alors, ce qui est clair, c'est que les trois grands-enfants, il en a cinq, mais il y en a vraiment trois qui sont impliqués dans la campagne. Hein. Il y a Eric, il y a Donald Trump Jr. et il y a Ivanka. Ivanka qui gère notamment l'image du candidat qui est très très proche de son père. Et donc, Donald Trump Jr. s'est exprimé mardi, Eric s'est exprimé mercredi, et Ivanka, sa fille aînée, qui s'est exprimée lors de ce discours d'hier soir. Elle est évidemment très élégante, elle a cet atout de charme qu'apportait également Michelle Obama à la candidature de Barack Obama. Elle s'exprime très très bien et ses idées, notamment, vous avez rappelé, adoucissent un peu le candidat Trump. Elle a notamment parlé de l'égalité salariale au sein du groupe Trump, ça c'était important. Mmh. Elle a parlé des inégalités salariales lorsqu'on est mère de famille, ça aussi c'est un sujet très important pour les Américains et surtout les Américaines. Donc c'est vrai qu'hier son passage à la tribune a été très très apprécié, mais comme tous les discours qui ont été prononcés par les enfants de Donald Trump.
Voilà, Nicolas, vous avez beaucoup à nous dire. Le temps d'accueillir un troisième invité, c'est Alseni Ben Bangoura. Bangoura, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, vous êtes journaliste pour Allo Conakry et vous avez également couvert cette convention. Je vais commencer par René Lec. René, question. Je sais que votre regard est très souvent braqué sur les démocrates. En observateur de la scène politique américaine, vous avez suivi cette convention des républicains. Un mot.
Oui, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Et je crois qu'effectivement, elle a commencé avec pas mal de couacs. Et elle s'est terminée avec un discours de Donald Trump qui a été l'un des plus longs discours d'une convention démocrate, d'une convention républicaine et démocrate depuis plus de 40 ans. Mm. Un discours qui dépeint un peu une Amérique dans laquelle je n'ai pas l'impression de vivre, parce que il a vraiment noirci le tableau au maximum, et on a l'impression que, à la limite, j'exagère, mais à peine qu'il décrivait un peu la Somalie. Donc, je crois que c'est en droite ligne des discours généraux qu'il y a eu pendant toute la convention, c'est de dépeindre les résultats de Barack Obama, puisqu'il s'agit de connecter Obama avec Hillary Clinton, donc de dépeindre les 8 dernières années qui se sont de l'administration Obama comme des années qui ont mis l'Amérique sur une mauvaise voie, en fait.
Alors, Alassane Fall, vous êtes résident de Cleveland. Est-ce que la convention a changé l'ambiance de la ville? Qu'est-ce que vous avez retenu?
Ah, mais bien sûr, ça a changé un peu l'ambiance, mais je venais surtout de lire et de parler avec des gens qui habitent ici. Mais je pense que la chose à noter, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de Clevelandais, évitaient la ville. On peut dire que presque 2000 personnes ont loué leur maison et juste pour éviter des troubles. Mais heureusement, je dirais même, cela ne s'est pas passé. Et puis aussi, du côté du business, il y a beaucoup de business qui pensaient qu'ils allaient vraiment faire de l'argent, faire de bonnes affaires. Là aussi, bon, ça n'a pas été le cas. Ils étaient obligés de fermer. Mais quand même, je pense que la bonne nouvelle, on avait peur que des choses allaient se passer parce que tous les offices qui étaient vraiment au niveau de centre-ville downtown, donc ils ont fermé ou bien ils ont travaillé à la maison. Ils ont une semaine, y compris moi-même. Parce que moi, les manifestations, tu sais, se passent, disons, à 50 mètres de mon bureau là-bas. Donc souvent, je veux les voir. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Maintenant, quand on va entrer dans le but des analyses, disons, plutôt faire une comparaison avec l'Afrique, le système démocratique, la bonne gestion, gouvernance et les manifestations, là quand même je pourrais faire une analyse un peu profonde.
Voilà, on vous parlez d'Afrique, je vais poser la question à Alseni Ben Bangoura. Vous travaillez pour Allo Conakry, vous avez couvert cet événement. Quel message vous transmettez aux Africains, à votre audience?
Oui, bon, écoutez, vous savez, la convention est un événement qui a lieu aux États-Unis chaque 4 ans. Et donc, je pense que ce que les Africains peuvent apprendre de cet événement, c'est que c'est la démocratie. C'est la démocratie en action, c'est-à-dire que les Américains ont la possibilité de changer leur gouvernement chaque 4 ans. Ils peuvent jeter un regard critique ou positif sur un gouvernement, et si si il est sortant, il peut voir son bilan et voir, écoutez, ce monsieur, il a travaillé, comme ce fut le cas pour Barack Obama en 2008 et puis 2012, et on peut le réélire. Et si on trouve qu'il n'a pas fait grand-chose pour le pays, et ils ont la possibilité d'échanger. Et donc, je crois que c'est peut-être le premier message qu'il faut tirer de cet événement.
Alors, je vous relance, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trop entendu parler de l'Afrique au cours de cette convention. Peut-être Nicolas dira aussi un mot juste après vous.
Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai personnellement noté. Bon, mais hier, en quittant la convention, là-bas, j'ai pu m'entretenir avec l'ancien président de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique pourrait attendre d'une future administration Trump. Il m'a dit simplement que l'Afrique n'a plus besoin de discours, l'Afrique n'a pas besoin de cérémonies. Il a même fait allusion au dernier sommet Afrique-États-Unis qui s'est déroulé en 2014 à Washington. Il a dit l'Afrique a besoin d'investissement et l'Afrique a besoin des hommes d'affaires qui peuvent venir créer l'emploi, mettre en place des systèmes de santé. Et il m'a dit clairement que c'est en fait le point de vue et la vision de Donald Trump. Et voilà. S'il est élu, je crois que c'est dans ce cadre qu'il doit renforcer. Mais voilà. C'est quelque chose d'un peu difficile à
croire parce que
l'Afrique n'a pas été mentionnée du tout au cours de cette convention.
Voilà, Nicolas, un mot sur l'Afrique.
Elle a été mentionnée, mais dans un contexte vraiment très particulier. Un discours de Chris Christie, évidemment le gouverneur de l'État du New Jersey, qui a accusé finalement, il a fait un lien très improbable entre la politique d'Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État et le développement de Boko Haram et notamment l'enlèvement des Chibok-Girls. Mais voilà, c'était dans une série d'attaques contre la politique étrangère d'Hillary Clinton. Et pour tous ceux qui suivent évidemment la politique africaine, le lien est vraiment difficilement compréhensible.
Voilà, on va prendre une petite pause et on retrouve nos auditeurs. On va prendre nos auditeurs et nos invités par la suite.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Voilà, on va prendre au téléphone John Trezor. John, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Voilà, vous vous dites que le show républicain contre démocrate s'annonce sous de bonnes auspices pour novembre 2016.
Oui.
Je vous écoute.
Oui, effectivement, en regardant ces tractations, on espère que les élections qui vont venir en novembre seront sous de bonnes auspices.
Voilà.
Et cette leçon de démocratie, j'avais dit que ça allait apprendre au prétendant président africain à être de plus en plus démocrate.
Voilà. Merci pour votre réaction. René Lec, Donald Trump a choisi Mike Pence comme son colistier. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de lui? Et puis, est-ce que vous pensez que Hillary Clinton va choisir quelqu'un qui pourrait aider le camp démocrate?
Oui, j'imagine bien que c'est ce que Hillary Clinton va faire. Mike Pence, c'est quelqu'un, c'est un gouverneur et c'est un leader du Parti républicain qui est relativement respecté, à la fois même par certains démocrates que je connais et définitivement par les républicains. Il a été au Congrès. C'était un congressman. Il a très rapidement, il a eu des positions de leadership au sein des congressmen républicains. Il a un bilan plus ou moins positif dans son état. Donc c'est quelqu'un qui est respecté. Bon, maintenant ce qu'il apporte au ticket de Donald Trump, c'est que c'est un conservateur, c'est un membre de l'establishment républicain. Donc je crois que dans l'effort que tente Trump de rassurer, d'unifier un peu son parti, c'était un bon choix, c'était un choix intelligent à mon avis.
Alors, je vais poser la question à Alassane Fall. Qu'est-ce que vous pensez que l'Afrique pourrait gagner de cette présidentielle 2016, qui que ce soit à la Maison-Blanche?
Écoutez, pour parler de l'Afrique, il y a un collègue là qui vient de dire, vient de mentionner Chris of New Jersey.
Oui, Nicolas Pineau, notre envoyé spécial à Cleveland.
Oui, donc quand il parlait là de essayer de faire, je ne sais pas, guilt par association, ou via entre Hillary Clinton et ce qui s'est passé avec Boko Haram. Ensuite, il a parlé de la Libye pour dire que vraiment c'était les États-Unis. Là aussi, il a mentionné. Mais le travail en matière de développement, il y a autre chose qui s'est passé, pas au niveau de Cricket Loan Arena. Mais, par exemple, One était en train d'organiser, donc, d'avoir des conversations avec les leaders, les congressmen qui étaient venus pour parler de plateforme africaine en matière de développement. Donc, il était en train de lobby pour que, au moins, les républicains ici, parce qu'ils font la même chose aussi avec les démocrates, pour que le président ou bien le futur président donc soit au courant de ce qui se passe en Afrique, d'avoir un plan réel, concret, comment faire par exemple pour aider les gens, comment faire pour développer l'économie, mais aussi de développer le partenariat. Donc là, il y avait vraiment One en tant qu'organisation qui était acté quand même, parce merci. Que moi-même, il m'avait invité, donc j'étais là-bas.
Merci Alassane. Merci Alassane. Je vais prendre Youssouf Ouédraogo au téléphone. Allô Youssouf, bonsoir.
Oui, bonsoir, la voix de l'Amérique, aux invités, aux éditeurs, à la rédaction.
On vous écoute.
Alors, il faut dire que la bataille s'annonce rude avec un Donald Trump qui critique et polémique plus qu'il ne propose concrètement. Donc, au-delà des apparences, alors les Républicains savent pertinemment mieux que quiconque que cette convention qui a vu la confirmation, entre guillemets, sans surprise, de la candidature du personnage controversé de M. Donald Trump, cette convention constitue dans la moyenne un échec programmé pour la course à la Maison-Blanche face au camp démocrate dont l'unité semble précieusement préservée avec un langage politique modéré en vue de conserver historiquement le pouvoir avec Mme Hillary Clinton comme la toute première femme à occuper la Maison-Blanche. Moi, je dis comme ça qu'une chose est de soulever les foules ou remplir une salle pour se faire applaudir. Mais de là à penser que cela suffirait pour remporter la bataille de novembre, comme le prédit Donald Trump face à Hillary Clinton, je n'en suis pas si sûr. L'Amérique ne peut pas sombrer à ce point de laisser Donald Trump étaler ses idées de division, de populiste et tout. Alors, quand on voit le échiquier mondial aujourd'hui avec la violence que le monde connaît, c'est vraiment inquiétant de voir les déclarations fracassantes de Donald Trump face à Hillary Clinton. Mais sait-on jamais, je croise les doigts, je crois fermement à la victoire d'Hillary Clinton face à Donald Trump.
Merci Youssouf. Nicolas Pineau, à ce stade, les démocrates n'ont pas encore tenu leur convention, elle commence lundi. Mais quand on voit Hillary et Trump, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de qui peut avoir les chances vraiment de l'emporter?
Non, ils ont deux profils très très différents. Il faut quand même se souvenir que c'est une année électorale où on, mais pas forcément qu'aux États-Unis, où on a évidemment les outsiders. On l'a vu notamment pour les mairies de Rome et ou de Barcelone. C'est ces deux femmes qui étaient de mouvements un petit peu contestataires. Donc, on est vraiment dans une année d'outsiders. On l'a vu dans le Parti démocrate, hein, Bernie Sanders qui a tenu la corde vraiment très très longtemps. Et pas sûr que les électeurs de Bernie Sanders se rallient directement à Hillary Clinton lors de l'élection de novembre. Actuellement, ils sont au coude à coude dans les sondages. Je pense que ce qui va être assez flagrant, c'est ça va être sur le choix notamment du colistier d'Hillary Clinton. Pour le moment, au niveau du Parti républicain, on a deux hommes blancs qui ont plus de 50 ans chacun. Et c'est vrai que dans cette Amérique diversifiée, où on parle beaucoup des latinos, où on parle beaucoup des afro-américains, voire des asiatiques, il y a quand même un contraste. Et actuellement, dans les délégués qui étaient présents au sein de cette convention, 18 ou 19, je ne me souviens plus précisément, mais seulement délégués afro-américains sur près de 2500, c'est infime. Et quand on va voir à partir de lundi les images de Philadelphie, on a une plus grande diversité déjà au niveau de la composition de la population. C'est vrai qu'on peut se dire que le Parti démocrate a un petit avantage, mais encore faut-il deux choses. L'électorat afro-américain et latino se déplace, ce n'est pas gagné d'avance, et surtout le réservoir de voix qu'a le candidat Donald Trump. On sait qu'il a gagné par des scores phénoménaux lors des primaires. Il réussit, il sait qu'il n'aura pas le vote des minorités, donc il va chercher le vote blanc, le vote industriel, le vote rural, et il joue absolument sur ça. Donc pour le moment, c'est vrai qu'Hillary Clinton, de par son expérience, apparaît favorite, mais rien n'est joué.
Alors, rien n'est joué, d'autant plus que Donald Trump, dans son discours hier, a fait comme un appel de pied aux électeurs de Bernie Sanders. Alors, René Lecq, quel commentaire vous faites-vous de l'issue qui a été réservée au dossier des emails de Hillary Clinton par le FBI et dont Donald Trump a également fait cas hier?
Oui, il en a parlé, mais il en a très peu parlé. Et effectivement, il a parlé, il a fait des appels de pied à certaines minorités, African American, les Latinos, et même la communauté gay. C'était assez courageux. Il s'est même félicité de la réaction de l'audience à ce moment-là. Donc, effectivement, il essaie de ratisser un peu plus large et d'essayer de voir s'il peut récupérer quelques voix chez les minorités, parce que a priori, ce n'est pas du tout gagné pour
d'avance.
Lui. Il a à peu près la moitié, selon les sondages, la moitié des intentions de vote qu'a obtenu Mitt Romney il y a 4 ans.
Oui, Nicolas. Et si on peut rajouter, René, pardon d'interrompre, le parti républicain qui attire de moins en moins le vote hispanique. Et on a eu cette sortie du président George W. Bush qui a fait une confidence en avril à ses proches, qui est sorti que maintenant, il a peur d'être le dernier président républicain élu. On se souvient que Mitt Romney a fait pire que McCain, qui avait fait quasiment pire que George W. Bush au niveau de l'électorat latino, qui est de plus en plus présent. Le Parti républicain a un vrai problème avec cet électorat.
Oui, John, aujourd'hui, vous avez 18% de la population qui est latino, avec une augmentation du pouvoir d'achat de 50% pendant les deux termes d'Obama.
Voilà.
Donc c'est devenu une catégorie sociale déterminante dans le jeu politique et économique des États-Unis.
Ben Bangoura, vous fréquentez la communauté africaine ici aux États-Unis. Quand vous causez avec elle, pour qui veut-elle voter, à votre avis?
Les Africains... Vous parlez des Africains américains,
tout
des
à fait.
Afro-américains ou les Africains,
Américains. Les Africains qui sont devenus américains.
Oui. Je crois que cette couche est beaucoup plus acquise pour Hillary Clinton. Ils ont quelques difficultés avec Donald Trump, notamment son programme en matière d'immigration, notamment ses propos fracassants contre les musulmans pendant les primaires. Je pense qu'il a pour l'instant des difficultés à gagner cette couche de la population américaine qui n'est pas aujourd'hui à négliger.
Merci.
Il y a aussi quand même des gens, par exemple hier j'ai parlé avec un Africain d'origine sierra-léonaise qui a suivi le discours de bout en bout, mais lui il est favorable, il me dit pratiquement que Donald Trump va gagner cette élection.
Voilà, merci. Je vais prendre en quelques secondes Moussa Ibni au téléphone. Moussa, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir.
Voilà, en quelques secondes, votre réaction.
Oui, ma réaction, je disais dans votre page Facebook, donc il y a de cela quelques mois, personne ne prenait au sérieux l'investiture de Donald Trump, et donc que les Américains ont changé leur camp, ont porté leur confiance à Donald Trump, et donc je ne pense pas que il a dit qu'on va remporter les élections présidentielles en 2017. Et donc, c'est bien sûr, Donald Trump va être le président des États-Unis d'ici quelques mois.
Voilà. Merci. Merci, Moussa. On va faire un dernier tour de table. Alassane Fall, un mot de la fin.
Écoutez, moi, quand même, ici, il y a les réalités. Donald Trump peut bien gagner les élections. Ce n'est pas du hasard s'ils ont choisi Ohio. Et puisque Ohio, d'habitude, a vu que la convention a été fait ici à Cleveland, donc au niveau de Cuyahoga County. Donc, et c'est là où les démocrates d'habitude gagnent. C'est pourquoi ils ont choisi ça. S'ils gagnent Ohio, et vous savez d'habitude ce qu'on dit, Ohio, Ohio, Ohio. S'il gagne Ohio, il a toutes les chances de gagner les élections. Parce que des États comme Kansas, les démocrates ne vont pas gagner. Nebraska, ils ne vont pas gagner. Le Sud, ils ne vont pas gagner. Donc, c'est une réalité. Même si, c'était toi-même, tu sais, le nominé des républicains, tous les États rouges, tu vas les gagner. Il n'y a que quelques États qui décident les élections. Ohio, voilà, et Florida.
Merci.
Et il est très compétitif en ces deux États-là. Donc,
merci, Alpha. Merci, Alassane. Désolé. René Lec, en quelques secondes, le mot de la fin.
Oui, je crois que le défi pour Trump, c'est de pouvoir rallier un peu plus de minorités. Et bien entendu, le défi pour Hillary Clinton, c'est de pouvoir maintenir cette coalition, ce qu'on appelle la coalition Obama.
Merci.
Coalition des minorités africains-américains, latinos, femmes, jeunes, gays et lesbiennes.
Merci, etc. Merci René. Ben, en 10 secondes, le mot de la fin pour vous.
Oui, moi, je pense que cette élection n'est pas gagnée d'avance. Elle peut aller d'un côté à l'autre.
Voilà. Nicolas Pineau, on se projette maintenant vers Philadelphie. Et puis, je dois dire que pour les auditeurs de VO Afrique, Internet, notre page Facebook, c'est vous le patron, on va dire, hein, de cette page-là. Donc, un mot pour eux.
Oui, bah, écoutez, 1,5 million de fans. On continue à faire des Facebook Live, hein, en direct. On retrouvera Tatiana Mosso, Idrissa Seydoudia sur place à Philadelphie pour vous faire suivre cette convention démocrate.
Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de l'Amérique et vous. Vous restez à l'écoute des programmes de VO Afrique, évidemment en direct et sur Internet, voafrique.com et sur notre page Facebook. Fred était à la production, assisté de Joselle Morrison. John Lyndon assurait la présentation. Merci pour votre fidélité et restez à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.